Bonjour, c'est Philippe Corbet de RTL, mercredi 29 avril, 44e jour du confinement, et voici un nouvel épisode de RTL avec vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus.
Mesdames et messieurs les députés,
l'histoire retiendra que le Premier ministre nous a mis en garde sur le risque d'écroulement de notre pays pour justifier un déconfinement prudent.
Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France au point qu'elle s'effondrerait. C'est une ligne de crête délicate qu'il nous faut suivre. Un peu trop d'insouciance, et c'est l'épidémie qui repart. Un peu trop de prudence, et c'est l'ensemble du pays qui s'enfonce. La stratégie que je viens d'énoncer a pour objet de nous permettre de tenir cette ligne de crête. À partir du 11 mai, le succès ne reposera pas sur la seule autorité de l'État, mais sur le civisme des Français.
À partir du 11 mai, ce ne sera donc plus totalement le confinement, mais ce ne sera pas encore vraiment le déconfinement, comme nous l'explique Alice Moreno.
Vous pourrez recevoir du monde chez vous, attention, pas plus de 10 personnes, et toujours en respectant la distanciation sociale. Le sport, en plein air, pas en salle, sera aussi autorisé à toute heure. Exit tout de même les activités collectives ou le sport de contact. Les sorties en général seront possibles, en volée les attestations que nous connaissons si bien, mais à condition de ne pas s'éloigner à plus de 100 km de chez soi. Les parcs et jardins rouvriront, sauf dans les zones où le virus est le plus actif. Pour une virée à la plage, il faudra attendre au moins le début du mois de juin. Et concernant les cérémonies, les règles restent les mêmes pour les funérailles, pas plus de 20 personnes. Quant au mariage, les maires sont incités à reporter les unions et les lieux de culte ne pourront rien organiser avant le 2 juin.
Et les règles seront adaptées en fonction de l'évolution de la pandémie, département par département. Thomas Proutot, il y aura les rouges et les verts.
Eh bien, il y aura trois critères pour classer un département en rouge, soit une circulation encore active du virus mesurée par les tests ou les entrées à l'hôpital, soit une saturation persistante des services de réanimation ou encore une capacité de test trop faible sur le territoire. Une première carte sera présentée le 7 mai et sera régulièrement actualisée. Dans les départements rouges, le confinement pourra être adapté, écoles et collèges fermés plus longtemps, ouverture restreinte des commerces et des espaces publics comme les parcs ou encore limitation des transports, le temps de repasser au vert. En revanche, aucune limite de déplacement entre rouge et vert n'a été prévue à ce stade. Et il existe en fait une troisième catégorie. Si un territoire se révèle être un nouveau foyer du virus, il pourra être de nouveau confiné, beaucoup plus strictement.
Une prudence saluée par le docteur Patrick Goldstein, le chef des urgences du CHU de Lille, est avec Franck Hanson.
Il faut que le déconfinement soit citoyen. Il y a des mesures qui vont être encore dures. Il était évident que ce ne serait pas le retour immédiat à la vie d'avant. C'est totalement impossible. Donc le port du masque dans les transports en commun, le port du masque dès que je rentre dans un magasin où il y a un petit peu de monde, ça se discute même pas. Respecter ce déconfinement tel qu'il nous est proposé, qui est excessivement contraignant, c'est clair. Il n'y a pas d'autre méthode aujourd'hui. C'est à la fois nous permettre de rentrer plus rapidement dans une vie normale, mais c'est également, et c'est indispensable, mettre l'hôpital à l'abri d'un nouvel impact.
La France va donc rester au ralenti jusqu'au 2 juin et même en partie jusqu'à la fin de l'été. Une stratégie en escalier, une stratégie nationale qui, selon le Premier ministre, repose sur trois mots, trois verbes.
Protéger, tester, isoler.
Qu'est-ce que ça veut dire, Sophie Jousselin, que sans ces trois conditions, le calendrier du déconfinement progressif sera compromis?
Oui, d'abord se protéger pour ne pas être contaminé, donc il faudra continuer les gestes barrières, limiter ses contacts et porter un masque. Il sera obligatoire dans les transports, à l'école, pour les collégiens et les enseignants. Ensuite, on va traquer les nouveaux cas. 700 000 tests sont prévus chaque semaine pour les identifier, ainsi que leurs contacts. Les épidémiologistes estiment qu'il y aura, à compter du 11 mai, jusqu'à 3 000 nouveaux cas par jour, qui auront en moyenne 25 contacts. Des brigades dans chaque département, en plus des généralistes, seront chargés de traquer les potentiels malades. Et puis les cas positifs devront s'isoler, le temps de se rétablir chez eux, en famille ou dans un hôtel réquisitionné. Les cas suspects, qui ne sont pas encore déclarés, seront eux aussi invités à se calfeutrer pendant 14 jours maximum. C'est la durée d'incubation de la maladie.
Sophie Jousselin parlait des écoles. Ce discours était particulièrement attendu par les parents de plus de 12 millions d'élèves. Reportage dans une famille avec trois petites filles en Gironde, Denis Grandjou.
Oui, hier après-midi, Isabelle et son mari Cyril ont regardé avec beaucoup d'intérêt l'intervention d'Édouard Philippe et un passage les a particulièrement intéressés lorsque le Premier ministre a déclaré
« L'impatience de nos concitoyens à retrouver une vie sociale, je crois que nous la partageons tous. »
Parents de triplettes scolarisés en CE2, ils avouent effectivement une certaine impatience.
Et moi, oui, bien sûr, que oui, moi je tiens à ce que... à ce qu'elles reprennent une vie sociale, qu'elles revoient du monde, qu'elles recommencent à voir du monde, tout en étant, voilà, en faisant attention. Elles ne seraient pas à plus de 15 par classe. Voilà.
Pour la cantine, est-ce qu'on va être obligé de les garder, de les faire garder le midi, de revenir les faire manger, ou les beaux-parents, ou... Voilà, pour le moment, on ne sait pas trop.
Après, maintenant qu'on a les directives, c'est les communes qui vont adapter suivant leur possibilité d'accueil.
Heidi Leblanc du Syndicat National Unitaire des Instituteurs est beaucoup plus dubitative. Elle est enseignante en CM1, CM2 dans la Somme.
Énervée comme de très très nombreux enseignants parce que c'est encore une fois de plus sur les personnels enseignants que toute l'organisation repose. Sans savoir si les maires ou présidents d'agglo vont réouvrir les écoles, sans savoir si les conditions sanitaires seront réunies. On ne sait pas s'il y aura de la cantine, mais on refuse de faire ça n'importe comment. Par exemple, il y a une seule journée de pré-rentrée qui est prévue. La disposition des locaux pour pousser les tables, pour ranger du matériel, pour réfléchir au sens de circulation éventuellement dans les couloirs, etc. Et on va parler de leurs émotions, de leurs ressentis. Et il nous faut du temps aussi pour réfléchir à ça. Débrouillez-vous, voilà. C'est mettre aussi 900 000 agents, les enseignants de l'éducation nationale, sous pression.
Ce sera plus progressif pour les collèges et lycées, se félicite le proviseur Philippe Vincent, le secrétaire général du premier syndicat des chefs d'établissement, interrogé pour RTL par Vincent Serrano.
Ce qu'on avait demandé en matière d'une plus grande prudence a été entendu et globalement, ça nous semble plutôt une bonne chose. Et je dirais que le caractère moins rapide, moins précoce et peut-être moins global de ce qui est annoncé là, nous apporte quelques assurances en matière de sécurité.
On a noté dans le discours du Premier ministre le souci d'accorder de la souplesse aux directeurs d'établissement, aux collectivités locales et de manière plus générale un appel à la responsabilité individuelle, le civisme dont parlait le Premier ministre, un déconfinement citoyen, disait l'urgentiste de Lille. Mais attention aux incertitudes que tout cela engendre, nous prévient le député insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu au Premier ministre à la tribune de l'Assemblée.
Les enfants doivent-ils aller à l'école obligatoire le 11 mai ou bien sur la base du volontariat, comme l'a dit votre ministre de l'Éducation nationale? Parce que ça, c'est anxiogène. Des millions de familles se sont dit « qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà ce que les gens viennent de vivre. Comment peut-on demander aux parents d'évaluer le risque d'exposer leurs enfants au danger? C'est odieux. Oui, c'est odieux. Ils ne savent que faire, les braves gens. Et surtout quand leur décision n'est pas libre, parce qu'on leur dit « il faut maintenant retourner au travail ». C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence par les plus petits, parce qu'ils ne sont pas capables de se surveiller eux-mêmes, alors que les plus grands pourraient le faire. Et pour les enseignants, n'est-ce pas odieux de mettre en balance leur conscience professionnelle, leur attachement aux enfants qu'ils éduquent, et leur propre risque, leur évaluation du risque pour eux et pour leur famille? Voilà ce que j'appelle les injonctions odieuses.
Beaucoup de questions restent en suspens, les masques, les tests, questions soulevées dans RTL Soir par deux figures de l'opposition. On va entendre successivement le chef des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau et le député Rassemblement National Louis Alliot.
On est en retard depuis le départ et très franchement, je ne mets pas Édouard Philippe en cause parce que je l'estime pour lui, j'ai même du respect. Mais franchement, depuis le départ, il y a eu ces contre-vérités sur les masques, il y a eu le dépistage qui n'a pas été fait convenablement. Quelle est la politique de dépistage? Moi, je pense qu'il va falloir le grand public tester au moindre symptôme. Mais partout, il y a des gens qui sont confinés, dans les EHPAD, mais aussi dans les prisons. Il va falloir tester systématiquement. Tester systématiquement et sans doute toutes les semaines le personnel soignant, y compris les gens comme les professeurs, qui peuvent être des facteurs et des vecteurs qui vont contaminer plusieurs personnes. Donc là encore, je n'ai pas eu une réponse très ferme sur une vraie politique et j'ai eu en revanche trop de flou.
Écoutez, honnêtement, moi, j'ai pas confiance. Voilà, Édouard Philippe, je trouve, s'en sort mieux que Emmanuel Macron quand il prend la parole. Mais ça reste des paroles. Et malheureusement, on ne voit pas les actes qui vont en accord avec les paroles. C'est notamment le nombre de masques, notre capacité à dépister. Oui, ben on verra. Le problème, c'est comme on a eu tellement de mensonges depuis qu'on verra bien le 11 mai. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous ne votons pas et que nous ne faisons pas confiance.
Et comment ça va se passer dans les commerces? Résumé d'Éric Vanier.
Tous les commerces, même non alimentaires, pourront effectivement rouvrir, y compris les salons de coiffure et les instituts de beauté, y compris aussi les marchés en plein air ou couverts, sauf si leur configuration rend impossible l'application des mesures de distanciation. Ne subsisteront donc plus que deux exceptions, les bars, cafés et restaurants qui ne seront pas fixés sur leur sort avant la fin mai et, sur décision du préfet s'il juge que c'est nécessaire, les enseignes non alimentaires des grands centres commerciaux qui drainent une clientèle très large, plusieurs dizaines de kilomètres kilomètres à la ronde. Pour ouvrir, les commerçants devront s'engager à gérer le flux de clients, pas trop de monde à l'intérieur pour faire respecter une distance d'au moins un mètre, aucun contact ou frôlement, respect des gestes barrières. Le port du masque ne sera pas obligatoire pour faire du shopping, sauf si le gérant l'impose, il sera autorisé à le faire et donc à interdire l'accès à sa boutique aux personnes non équipées d'un masque.
On va prendre deux exemples. D'abord Jean-François qui possède un magasin de prêt-à-porter.
On va pouvoir mettre en place des mesures barrières limitées à 3 ou 4 clients dans le magasin. Il y aura du gel hydroalcoolique à disposition, des gants. Et puis il faudra le port du masque obligatoire parce que sinon je ne pourrai pas faire rentrer les clients. On va bien sûr désinfecter les cabines après chaque essayage, mettre les vêtements de côté qui ont été essayés et pas à acheter. Et puis, on a des appareils pour désinfecter avec de la vapeur.
Et Séverine, un salon d'esthétique.
Très heureuse d'ouvrir mon commerce, donc tout de suite après ce confinement. C'est le sourire, en même temps l'excitation de retrouver enfin nos clientes. Et déjà, j'ai ma première semaine de rendez-vous qui est déjà pratiquement pleine. Ça va être une cliente à la fois dans l'institut. Les clientes viendront automatiquement avec leur masque. Alors, il y a des soins que je ne pourrais pas faire, dont les soins du visage, puisque les clientes ne pourront pas porter de masque. Je vais avoir beaucoup de travail en rentrant, puisque j'ai certaines clientes qui m'ont déjà dit que par rapport à ce confinement, eh bien, tout le monde s'est mis à faire beaucoup de cuisine. Et du coup, bah, quelques kilos superflus ont dû être pris. Et moi qui suis dans l'amincissement, du coup, je pense que j'aurai pas mal de travail. Donc, tant mieux, tant mieux.
Entretien réalisé par Serge Puyot, RTL Grenoble. Et l'un des aspects les plus délicats de cette période de transition qui s'ouvre le 11 mai, les transports en commun. Arnaud Touche.
Oui, l'équation sera difficile en Île-de-France puisque le Premier ministre veut imposer une distanciation physique dans les métros, tramways et bus en neutralisant un siège sur deux. Mais il faut savoir qu'en temps normal, chaque jour, avec un trafic à 100%, ce sont 12 millions de voyages qui sont effectués sur le seul réseau RATP. Avec une distanciation sociale stricte, comme le souhaite Édouard Philippe, ce chiffre tombe à 2 millions de voyages par jour, soit 6 fois moins avec un trafic normal. Et à partir du 11 mai, il ne sera qu'à 70%. Alors pour éviter la cohue, les flux devront être radicalement limités. Le gouvernement mise notamment sur le télétravail en étalant les horaires. Le Premier ministre demande aux Français de considérer que les transports aux heures de pointe doivent être réservés à ceux qui travaillent. Certains préféreront aussi la voiture ou le vélo, mais la reprise dans les transports en commun en Île-de-France s'annonce quand même délicate.
Oui, les transports, beaucoup de questions à ce sujet au 3210 sur la page Facebook RTL. Marie Guerrier a tenté de répondre à certaines d'entre elles dans RTL Soir avec Thomas Soto.
Armand vous demande, peut-on raisonnablement réserver des billets pour partir en week-end à la fin du mois de mai, donc après le déconfinement ? Aura-t-on le droit de le faire ? N'y a-t-il pas un risque de voir son train ou son billet supprimé ?
Si vous partez en week-end à moins de 100 km de chez vous, Armand, c'est possible. Au-delà de 100 km, alors là, pas de week-end de détente. Il faudra une bonne raison pour se déplacer, justifiée d'un motif professionnel ou d'un motif familial impérieux. Et puis pour ce qui est de réserver des billets, même après le déconfinement, eh bien, à la SNCF, l'offre restera réduite. Peu de places disponibles pour décourager les déplacements en fait, entre départements. Un week-end à la fin du mois de mai, on voit bien ce qu'il veut dire. Armand, bien sûr, c'est le jeudi de l'Ascension férié. Le Premier ministre a été assez clair tout à l'heure. Il a dit: je veux dire aux Français, ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end. Il compte sur le sens des responsabilités et le civisme.
Du coup, question de Jean-Pierre, je sens la réponse arriver. Je voudrais partir le 11 ou le 12 mai dans ma maison familiale. Je partirai seul en voiture pour 2 semaines. Je veux dire savoir si avec le déconfinement, je pourrais partir. C'est pareil, plus
ou moins 100 Jean-Pierre, voilà, si votre maison familiale est dans un périmètre de 100 km, vous pourrez y aller sans problème. Au-delà, il faudra bien sûr justifier d'un motif professionnel ou familial impérieux. Dans le périmètre de 100 km, donc, il n'y aura plus besoin d'attestation quand le déconfinement va commencer. Vous pourrez circuler, mais alors attention, toujours dans le respect des gestes barrières, des distanciations. Et d'ailleurs, le port du masque sera obligatoire dans les transports publics. Il faut bien s'y habituer à partir du 11 mai.
C'est ça, obligatoire et non pas facultatif. Odile, les plages seront-elles ouvertes cet été ?
Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que les plages seront interdites au moins jusqu'au 1er juin.
Et après, on n'en sait rien.
On n'a pas de visibilité. Alors, le Premier ministre a parlé de deux phases de déconfinement. La première, c'est à partir du 11 mai jusqu'au 2 juin. Ensuite, eh bien, il nous donne rendez-vous, en fait, dit-il, pour évaluer la situation et prendre de nouvelles mesures. On parlera alors, par exemple, de la réouverture des restaurants, des bars, et puis de l'organisation des vacances. Donc, pour l'instant, impossible de se prononcer sur les plages pour cet été.
Cécile pourra-t-elle dire oui ? Je me marie mi-juillet près d'Annecy. J'ai invité 120 personnes. Je fais quoi ? Oula.
On ne peut pas lui donner beaucoup de conseils pour l'instant parce que, là encore, d'ici au 2 juin, on n'a pas de réponse. Les salles des fêtes fait. Les salles polyvalentes restent fermées, au moins jusqu'à cette période. Le gouvernement n'autorise toujours pas l'organisation de cérémonies religieuses, hein, de mariages, rien avant le 2 juin. Les mairies, elles, vont continuer à reporter les mariages, sauf urgence. Tout ça jusqu'au 2 juin et aux nouvelles mesures qui seront alors annoncées. Alors, on note que Cécile se marie à Annecy, en Haute-Savoie.
Oui.
Peut-être que le département sera classé vert,
ah oui,
là où les conditions sanitaires seront les plus favorables pour un déconfinement un peu plus rapide. Par exemple, dans les départements classés verts, les parcs et les jardins vont pouvoir réouvrir dès le 11 mai. Donc, il faudra suivre cette évolution.
Et avec tout cela, les grands musées, les salles de concert, les théâtres, les cinémas ne pourront pas rouvrir le 11 mai. Beaucoup d'incertitudes sur les festivals de l'été. Ça va être très difficile pour le monde de la culture. La Ligue 1 ne reprendra pas avant septembre. Ça veut dire que la saison est terminée. Hugo Hamelin a interrogé Franck, supporter de l'OM.
Bah, c'est dommage pour tous les supporters qui devaient aller au match. Bon, après, d'un autre côté, ça nous qualifie directement en Ligue des Champions, donc une bonne nouvelle aussi. On est partagé. Bah, nous, on est pour le football, donc effectivement, on aurait bien aimé, même si c'est à huis clos, que les matchs se jouent.
Tous les détails sur ce déconfinement à retrouver sur RTL.fr. Dites-nous ce que vous en pensez au 3210 ou sur la page Facebook RTL. À demain pour un nouvel épisode de RTL avec vous, au Lakers.